Souvenir, toujours une joie de venir, de pouvoir venir à Shediac. Mon épouse partage la même pensée. Amen. Ce matin, nous allons regarder une écriture dans Luc. Luc, premier chapitre. Et c'est le verset 26. Pardon. Luc, premier chapitre. C'est un passage que vous connaissez fort bien. Écoutez bien cette écriture que vous connaissez par cœur, quasiment. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et il sera appelé le Fils du Dieu Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile, et dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. » Le titre de mon message ce matin est ceci, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Seigneur Jésus, nous voulons en ce moment mettre nos cœurs, nos esprits, notre vie devant toi. Merci pour l'Esprit Saint qui est là pour nous éclairer, pour nous édifier, pour nous corriger, pour nous conduire dans la vie de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour chacun de mes frères et mes sœurs qui est là devant toi ce matin. Je te demande, ô Dieu, que tu puisses les remplir de ta présence, que tu puisses nous instruire en toutes choses, dans toute la vérité. Que ton Saint-Nom soit béni et son peuple dit... Amen. Eh bien, ce matin, nous voulons commencer par le commencement. Nous voulons regarder, évidemment, l'histoire, la grande histoire de Noël. C'est la plus grande histoire qui a jamais été racontée par qui que ce soit. C'est la venue de Jésus-Christ, l'incarnation. Dieu qui vient jusqu'à nous en chair pour manifester sa gloire, pour nous sauver. Il a été dit souvent que l'histoire, ou on dit en anglais « his story », on le dit souvent, c'est justement « his story ». Et ce passage m'appelle, me fait savoir qu'il y a quelque chose de merveilleux que Dieu, le Dieu éternel, a fait, c'est qu'il est intervenu dans le temps, dans notre temps. Et toute l'histoire de l'humanité se résume en Jésus-Christ. Il y a avant la croix et il y a après la croix. Fait que ce matin, nous pouvons bénir le Seigneur de ce qu'il est venu il y a 2000 ans. Il a tout le plan de rédemption qui s'est manifesté à travers l'histoire de l'humanité, le grand plan de Dieu. Et ce plan de Dieu a toujours été dans le cœur de Dieu depuis toute l'éternité. L'éternité que nous ne saisissons pas exactement ou pleinement, mais dans le cœur de Dieu, l'idée, le plan, c'était de venir. Et puis il y a 2000 ans, Jésus-Christ est venu. C'est Dieu est venu en chair et en os et il nous a sauvés. Il a payé le prix pour notre salut. Il a ôté nos péchés. Il nous a sauvés pleinement. Fait que quand je regarde ce passage ici, je vois que Dieu est un Dieu qui intervient dans le temps. C'est un Dieu qui se manifeste à nous dans le temps. Je vois ici, dans le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Et tout ce que Dieu a fait dans ce passage souligne le fait que Dieu est un Dieu de temps. Dieu travaille dans le temps. Et le psaume 90, 2 dit ceci, souligne encore le fait, « D'éternité en éternité, tu es Dieu. » En anglais, « From everlasting to everlasting, you are God. » Dieu a fait éruption, il a envahi le monde, il est venu dans le temps de l'éternité, il est venu et il a fait son plan qu'il avait depuis toujours. Je répète ceci tout simplement, c'est que toute l'histoire, notre histoire du monde entier est résumée dans cet événement, Jésus-Christ est venu. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans Éphésiens, Éphésiens, le premier chapitre, en parlant de Jésus-Christ, parce que tout simplement, nous, souvent, nous sommes tellement dans le temps qu'on ne voit pas le temps de Dieu. Dieu veut toucher nos yeux, mes yeux, de voir l'éternité, d'avoir une perspective qui nous libère des jours et des mois et des années qui nous sont donnés, n'est-ce pas? Et Dieu, quand il nous a sauvés, il nous a donné une notion. La Bible dit, il a mis dans l'âme, le cœur de l'âme, la pensée de l'éternité. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous voyons le temps différemment que les autres. Nous savons qu'il y a une éternité qui existe et que nous sommes des gens éternels. Jésus dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Et ce que nous visons, ce que nous désirons après cette vie, c'est que nous voulons vivre éternellement avec le Seigneur. Le Seigneur, quand il est venu, non seulement il nous a donné le pardon de nos péchés, il nous a donné la vie éternelle. La vie et l'immortalité est venue par Jésus-Christ, dites-vous Amen. Donc, nous sommes un peuple qui ne mourra jamais. Peut-être la poussière, peut-être on va devenir... Mais l'Esprit, le vrai nous, va vivre éternellement. Et c'est Jésus qui a fait éclater. Lui qui est sans commencement ni fin. Et la Bible dit, « Celui qui croit en moi ne mourra jamais. » Nous le croyons de tout notre cœur. Fait que nous sommes dans une dimension, même maintenant. Il dit que même maintenant, ceux qui croient en Jésus-Christ ont la vie éternelle. Donc, pourquoi avoir peur de la mort? Pourquoi avoir peur de tout ce qui peut nous arriver ici-bas? Nous avons une espérance qui vient de Dieu. Et ça vient parce qu'il y a un Dieu qui a tout créé, a décidé, a planifié venir et de nous sauver. Et il l'a fait. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc le temps, ce passage que je lis dans Éphésiens résume un peu, nous donner une perspective, la perspective de Dieu. Et Seigneur, ce matin, nous disons, nous voulons ta perspective. Même dans le monde dans lequel où les temps sont troublés, où il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de choses qui ne passent pas, et l'homme est consterné, l'homme est troublé, mais nous, nous voyons les choses différemment. Regardez l'apôtre Paul, comment il résume cela. Éphésiens, le premier chapitre, le verset 8, dit ceci. En parlant de la grâce de Dieu, il dit, « Nous avons la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse. » Vous êtes un peuple rempli de grâce. Vous êtes un peuple que Dieu vise de gracier, de remplir de sa bonté, de sa présence, de ses bénédictions, de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Laissez-moi vous dire une chose, Dieu a un plan. Et c'est Dieu qui est souverain. C'est Dieu qui mène, peu importe ce que vous voyez dans le monde ou peut-être dans votre vie. On a un Dieu qui a un plan. Et ici, il avait formé en lui-même. In English, he purposed within himself. On n'est pas orphelin. Le monde n'est pas à l'envers. On est exactement où Dieu veut qu'on soit. Donc, le bienveillant, un dessein, mais le bienveillant, Dieu est bon. Il a un bon plan pour nos vies. Il a exécuté pleinement en Jésus-Christ qui est venu plein de bonté et plein de vérité. Amen. Et plein de grâce. Je bénis le Seigneur parce qu'il est venu. Il y a 2000 ans, mais je bénis le Seigneur parce qu'il y a quelques années, il est venu dans ma vie. Il est venu et puis le Seigneur est né en moi. Et mon esprit est né. Et maintenant, je connais Dieu. Je connais le plan de Dieu et je veux connaître davantage les choses de Dieu. Voilà la vie chrétienne finalement. Bon, ce dessein qu'il avait formé en lui-même pour mettre à exécution lorsque les temps seraient accompli. Le plan de Dieu, ce plan éternel, il a attendu, il a béni les gens, mais il a mis ça en exécution lorsque les temps seraient accomplis. Et la Bible anglaise qui dit « dans la plénitude »,« in the fullness of time ». Dieu a un plan. Dieu a un calendrier. Dieu a un agenda. Dieu sait ce qu'il fait. Il fait tout selon le conseil de sa propre volonté. Bon, tout cela, il dit, est de, quand les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, tout va être réuni. Le plan de Dieu va s'accomplir un jour, c'est déjà en marche dans notre vie. Et nous avons confiance, nous savons que le reste qui reste, c'est que le Seigneur va réunir. En qui? Dans un prophète quelconque? Dans une religion? Dans une église quelconque? Non, Dieu va réunir toutes choses, le plan de Dieu va s'achever un jour et ça serait en Christ. Cette semaine ou la semaine passée, j'étais un peu, ce que je lisais m'a amené dans l'Apocalypse, et j'ai vu le terme les jours du Seigneur. Et on vit les jours du Seigneur. On voit les choses prophétiques s'accélérer. On voit toutes sortes de choses qui se passent présentement. Et tous ceux qui sont familiers avec les Écritures, tous ceux qui ont les espérances, l'espérance en Jésus-Christ, voient avec clarté que le Seigneur fait des grandes choses à une vitesse incroyable. Et au lieu de que ça me fait peur, ça me fait réjouir. Jésus dit, quand vous voyez toutes ces choses-là, levez votre tête, cachez pas votre tête, levez votre tête parce que l'avènement, votre rédemption est proche. Enfant de Dieu, le Seigneur prépare de grandes choses et puis on le sent. On le ressent que le Seigneur fait de grandes choses. Mais c'est les jours du Seigneur. Il y aura la tribulation, il y aura aussi un millénium. Wow, le temps est entre ses mains. Mais la Bible dit, un jour c'est comme mille ans c'est comme un jour. Celui qui habite l'éternité, celui qui depuis toujours voit les choses différemment. Mais nous aussi, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Donc on voit les choses comme le Seigneur le voit, et les jours du Seigneur, on voit ça, les choses prophétiques, mais dans Apocalypse 21-22, j'ai souligné quelque chose, j'ai pris note de cela, c'est qu'on appelle ça le jour de Dieu. Wow, le jour de Dieu. Si vous voulez savoir ce que c'est l'éternité, Apocalypse 21-22 va vous donner un aperçu de ce que c'est. Fait qu'on s'en vient, puis c'est le jour de Dieu. C'est dans l'éternité. L'éternité dans le passé, et puis nous, on est cédulés, on est réservés pour l'éternité dans le Seigneur. Fait que le Seigneur puisse nous inonder avec sa pensée, que nos petits yeux ne soient pas braqués, fixés sur les événements, et on sait qu'on vit tous des événements, mais que le Seigneur puisse nous aider à comprendre qu'il y a une éternité, que l'éternité est venue jusqu'à nous pour nous amener, nous, à l'éternité en Jésus-Christ. Dites-vous amen. Donc, ce passage nous souligne, puis il y a bien d'autres passages, mais Dieu a, à un moment donné, choisi, connu d'avance, il est venu et il a touché Marie. Il s'est manifesté à Marie. On appelle ça l'incarnation. C'est Jean 1, quand la parole est devenue chair, la parole a habité parmi nous et nous avons vu sa grâce, nous avons vu sa gloire. Ce qui me touche aussi, c'est que le fait que ça soit fait à Bethléem. Vous savez, une autre chose qui nous touche, ceux qui ont les yeux pour voir, comprendre des choses, la Bible dit que Dieu, l'Éternel Dieu, qui a manifesté le grand plan de salut dans son Fils Jésus-Christ, il n'est venu pas à Washington, il n'est pas venu à Rome. Il est venu à Bethléem, et puis le prophète Michée, dans le cinquième chapitre, verset premier, je crois, il dit, Michée, il a dit, « Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda. » Il y avait beaucoup de petites places en Israël dans ce temps, mais la plus petite des places était Bethléem. Et Dieu a choisi de se manifester là. Dieu a jugé bon de venir nous visiter de cette façon-là. Un temps exact, un temps précis, et voilà ce que Dieu a fait. Galates 4, 4 à 5 dit ceci. « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Et il a envoyé l'esprit d'adoption dans notre cœur qui dit « Abba ». Lorsque les temps ont été accomplis, quand c'était le temps, Dieu est venu, le Seigneur est venu. Et quand c'est le temps, le Seigneur reviendra dans le moment choisi par lui. Amen. Il y avait beaucoup de gens qui n'attendaient pas, mais il y avait des gens qui attendaient. Il y avait Simon, il y avait Anna qui priait dans le temps. Il y avait des gens, il y avait une promesse, même la religion avait une promesse. Mais quand Jésus est venu, ils l'ont quasiment, enfin, ils l'ont manqué. N'est-ce pas? Vous savez, les religieux qui connaissaient les prophéties et tout cela. Mais Jésus est venu dans une simplicité, dans une pauvreté comme nous. Ils attendaient un grand libérateur, ils attendaient un Messie avec éclat. Jésus est venu dans la pauvreté, dans l'humilité, et il vient à nous jusque de cette façon-là. Nous, pour que nous voyions le Seigneur, pour que nous acceptions le Seigneur, il faut venir à lui dans l'humilité. Il faut s'abaisser. Le Seigneur s'est abaissé, mais les hautains, ceux qui ont l'orgueil, ceux qui veulent juste vivre leur propre vie, ne peuvent pas atteindre le Seigneur. Mais quand nous, on vient dans l'humilité et on accepte le Seigneur, bien, il vient nous remplir. Dans la plénitude du temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Je pense que ce texte, ce qu'on a lu jusqu'ici, puis le texte en entier, j'entends une voix, j'entends une vérité. Il veut que nous, chacun de nous, qu'on met notre confiance dans le temps de Dieu, dans le timing de Dieu. Dans ce monde rebelle, dans ce monde qui se détourne de Dieu, dans ce monde qui ne veut pas accepter la vérité, qui veut bâtir leur propre vérité, nous vivons dans un monde présentement où nous sommes appelés, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de mettre notre confiance complètement en lui. Je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais pas ce que vous attendez, mais l'Esprit Saint va vous amener à une place où vous faites une confiance absolue dans le Seigneur. Des fois, c'est difficile. Job a vécu beaucoup de choses. Mais il dit, si je meurs, je mets ma confiance dans le Seigneur. Et nous sommes des gens qui croient dans le Seigneur. Et on se confie en lui. et on voit le Seigneur à l'œuvre, toujours dans notre vie. Éphésiens 5 et 16 dit ceci, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Fait que nous, ici, nous sommes, si vous voulez, en quelque sorte, nous sommes emprisonnés dans le temps. Nous vivons le temps, nous pensons toujours, j'ai une montre ici, c'est le temps. N'oublie pas le banquet ce soir, c'est dans le temps. Enfin, tout se fait dans le temps. Mais la Bible dit pour nous, le commandement est donné, racheter le temps. Le Seigneur nous a donné le temps, il s'est fait connaître à nous, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bien, racheter, fais bon usage du temps. Ne perdez pas le temps. Notre temps maintenant est finalement, c'est nous sommes à Dieu, nous sommes pour le Seigneur. Le temps lui appartient. Et on dit, Seigneur, fais avec moi ce que tu veux. Et on met le Seigneur en premier. On lui donne notre vie. Seigneur, fais avec moi ce que tu veux. Oui, le temps lui appartient, mais on lui appartient aussi. Quand je construisais, avec l'aide du Seigneur, ces messages, ce passage, je méditais ce matin, puis cette semaine. Et puis tout à coup, j'ai pensé à un chant de Noël. Je pense qu'on dit chant de Noël, hein? Et puis, c'est venu juste comme cela, et vous l'avez déjà entendu, c'est « Do you hear what I hear? Hein? »« Do you see what I see? » Et puis, j'ai pensé, « Wow, do you see what I see? » On est des gens qui voient différemment, pas à cause de nos lunettes. Mais on est des gens qui voient des choses. On a des yeux spirituels, puis les choses de Dieu, ça nous sourit, ça nous touche, ça nous fortifie, ça nous amène dans la vie de Dieu, puis on voit les choses. Le monde aussi voit des choses, puis ils sont partis, enlevés, ils vivent pour ce qu'ils voient. Mais nous, les enfants de Dieu, on voit les choses de Dieu en premier, on voit le Seigneur, on apprécie le Seigneur, on l'aime de tout notre cœur, et on veut, en voyant la beauté du Seigneur, on lui consacre, on lui donne constamment notre vie. « Me voici, Seigneur, que veux-tu? Que ta volonté soit faite dans ma vie. » Il y a deux sortes de gens. Les gens qui font leur propre volonté, comme on l'a fait autrefois, et les gens qui disent « Seigneur, je veux faire ta volonté. » Et le Seigneur veut intensifier ça dans notre cœur par la puissance de l'Esprit Saint, par la parole de Dieu qui est vivante. Il veut... Enfin, il y a quelque chose à côté là, puis c'est pas grave, là, je m'arrange avec ça. Le Seigneur met dans notre cœur le désir vraiment de faire sa volonté. « Do you see what I see? » Est-ce que vous entendez ce que j'entends? On entend des choses de la part du Seigneur. Le Seigneur chuchote, le Seigneur parle dans notre vie, le Seigneur touche notre esprit. Puis, enfant de Dieu, c'est la voix de Dieu. Le Seigneur, oui, il peut parler ouvertement, audiblement, ça se fait. Mais de tous les jours, la façon, c'est que le Seigneur touche notre esprit et ça s'infiltre dans notre cerveau, ça s'infiltre dans notre esprit, plutôt dans notre vie, puis on le met en pratique ou on le croit. Donc le Seigneur parle, l'Esprit Saint parle à notre esprit. Fait que, do you hear what I hear? Puis qu'est-ce que vous entendez ce matin? Quelle voix vous écoutez? Est-ce que vous écoutez votre voix? Est-ce que vous écoutez la voix du monde? Parce que laissez-moi vous dire, si vous écoutez la voix du monde, on va prier pour vous. On va prier pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de voix, et ces voix sont mensongères. Ces voix-là ne sont pas les voix du Seigneur. Ils détournent du Seigneur. C'est les voix bâties sur l'homme, l'humanisme, sa pensée, le nouvel âge. C'est toutes les pensées avec une philosophie que c'est, finalement, je le dis bien là, c'est diabolique. Tu sais, des fois, on prend des petites paroles et puis on ne veut pas offenser quoi que ce soit. C'est satanique! Ce n'est pas de Dieu. Puis si nous, le Seigneur, Jésus dit, mes brebis, mes enfants, mes brebis entendent ma voix et ils n'écouteront pas la voix d'un autre. Fait que c'est à nous de bloquer Cet agneau dit, non, je ne veux rien savoir. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de penser. Et on est bombardé à la journée longue avec une philosophie qui est anti-Jésus-Christ. Et nous sommes un peuple qui se dédie, qui se donne. Seigneur, je veux que mon cœur soit aligné avec ton cœur. Le Seigneur aussi, il fait un travail de... Il aligne notre cœur avec sa pensée. Amen. Mais c'est quand on se tient devant la parole, quand on se tient dans l'humilité, quand on est comme Marie, et le Seigneur lui explique les choses, et le Seigneur nous explique des choses. Le Seigneur éclaire, le Seigneur nous illumine, le Seigneur nous montre, l'Esprit Saint nous enseigne des choses. Et c'est quand il nous explique de quoi, et on le comprit, bien on le saisit, on le touche. On dit, Seigneur, tu me parles. Et on met ça en pratique. Et on prend cette parole et puis on le serre dans nos bras et dit, Seigneur, c'est à moi. Et ça devient partie de nous. Et ça nous remplit avec sa présence et on est formé, transformé à l'image de Jésus-Christ. Do you know what I know? On connaît des choses. N'est-ce pas? On est fondé sur les choses solides. Jésus est venu, né de la Vierge Marie. Il est mort à la croix. Il y avait, ça me fait penser, il y avait, j'ai entendu une histoire, une femme qui a fait une couronne, hein, ce qu'on met sur les portes, c'était ici, là, dans notre bloc d'appartement, il y a des couronnes sur chaque porte. Enfin, pas grave. Mais une femme a fait ça comme ceci. Elle a fait un côté, c'est la couronne traditionnelle, et de l'autre côté, elle a mis des couronnes d'épines. Elle a écrit dessus, l'autre côté, couronne traditionnelle, it's the season, c'est la saison. L'autre côté, it's the reason, c'est la raison. J'ai pensé que cette femme-là était certainement un chrétien. Oui, amen. Fait qu'on voit les choses, on connaît les choses. Et je bénis le Seigneur de ce que je connais les choses de Dieu. Je ne veux jamais que ça devienne « Ah, ben je connais cela ». Je veux que ça soit pétillant, je veux que ça soit quelque chose qui me nourrit. Le Seigneur, ce qu'il a fait, je ne veux pas que ça devienne stagnant. Je veux par l'Esprit Saint, par la parole de Dieu, que ça doit des choses. Ma vie est bâtie sur ce qu'il a dit, lui. C'est pas ce que le monde dit. Moi, ça fait longtemps que j'ai rejeté ça. Et puis, le temps dans lequel nous vivons maintenant, il faut rejeter de plus en plus, être redoublé de force et de se fortifier dans le Seigneur. Dites-vous amen. Et nous sommes un peuple, on se dédie, on se donne, peu importe ce que les autres pensent de nous, ce qu'ils disent de nous, on se tient fidèle avec le Seigneur. Nous sommes de lui. Alléluia. Nous connaissons les choses. Nous entendons la voix du bon berger qui s'est donné pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il s'est sacrifié corps, âme et esprit pour nous. Et nous ne pouvons même pas saisir, à moins que l'Esprit Saint nous fait comprendre ce qu'il a fait pour nous. Ce n'est pas juste une chose religieuse qui se célèbre une fois par année. C'est quelque chose, on vit avec ça tous les jours de notre existence. Il s'est donné, il s'est sacrifié, et il a pris, il est mort pour mes péchés. C'est l'Évangile. Et ça ne devient jamais vieux jeu. C'est pas, oh ben on connaît ça. Non, avec gratitude, avec l'Esprit Saint. Merci Seigneur, parce que tu as donné ta vie. Qu'est-ce qu'on fait devant cela? Ben on se donne. On croit en lui, on se sacrifie et on dit, Seigneur, je veux te glorifier ici dans le temps. On vit dans le temps. Mais laissez-moi vous dire une chose, avec quelqu'un qui prend un peu, pas vieux là, mais enfin, c'est que le temps passe vite. We've just got one kick at the can. Ça passe vite. Mon père, quand il mourait, il était là, puis il dit, puis il est mort jeune. Et il a dit, le voyage a été très vite. Mais il connaissait le Seigneur. Il connaissait le Seigneur quand j'avais à peu près 7 ans. Puis à cause de cela, j'étais exposé à la vérité. Vous avez été exposé à la vérité. On vit dans un monde qui dit, il n'y a pas de vérité. La vérité, c'est ce que tu penses. Oui, tu penses? La vérité, ce que tu fais, c'est pour cela maintenant qu'on est dans un jungle d'idées. L'idée de chacun prime et il va marcher sur l'autre, il va engueuler l'autre parce que sa vérité, c'est la vérité. Non, non, non. Non, 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 non. Il y a une vérité. Il y a une vérité. Il est, Jésus dit, je suis la vérité. Alléluia. Et je bénis le Seigneur de ce que vous et moi, non pas parce qu'on est bien, mais à cause de la grâce. Ce qui me frappe aussi dans ce passage, c'est tout est saucé dans la grâce. Tout est enrobé dans la grâce. Tout est baigné dans la grâce de Dieu. Ça baigne dans l'huile, mais ça baigne dans la grâce de Dieu. La façon que Dieu agit, il travaille avec nous, c'est toujours la grâce. Combien sont heureux pour cela? Moi, je le suis. La grâce de Dieu. Puis on le voit ici, on voit avec Marie, il dit à Marie, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Il y en a qui pensent qu'il prie de cette façon, Marie pleine de grâce. Ben, elle est peut-être pleine dans ce sens que là que la plénitude de la grâce de Dieu lui a été donnée. Mais elle dit, à toi, une grâce a été faite. Elle n'est pas la source. Elle n'est pas l'océan de la grâce. La grâce, c'est Jésus-Christ. La grâce est venue par Jésus-Christ. Fait que j'aime beaucoup Marie, elle est honorée, elle est bénie entre toutes les femmes, mais elle n'est pas la source de la grâce. C'est Jésus est la source. Et on ne prie pas, on prie le Seigneur, évidemment. Nos cœurs, nos pensées sont dirigés. Mais je te salue à qui une grâce a été faite. Donc, cette grâce qui lui a été donnée, ça a changé sa vie. La grâce de Dieu change notre vie, constamment. Et la grâce, pour nous, enfants de Dieu, n'a pas été donnée juste une fois au début de la vie chrétienne. On en a besoin pleinement aujourd'hui. La grâce de Dieu est disponible et là pour nous tous les jours de notre vie. Fait qu'on est un peuple rempli de grâce. Et quand on est rempli, quand on saisit ce que c'est la grâce de Dieu, vous savez, on est dans une louange. Ça nous transporte, ça nous prépare pour louanger Dieu. Quand on saisit le sens, quand on est illuminé par l'Esprit Saint, et Seigneur, tout ce que tu as fait dans ma vie, tout ce que tu es, toutes tes promesses, tout l'avenir en toi, c'est la grâce de Dieu. Je ne mérite rien. Mais la vie chrétienne est vécue de la même façon. Parce que des fois, quand on est chrétien, on devient maintenant, puis il y a des gens, et nous autres même, on impose des lois, des règlements, et puis on essaie de plaire à Dieu, on essaie de faire toutes sortes de choses, puis on se met inconsciemment sous une loi, un régime religieux. Mais la vie chrétienne, un secret, ben vous le savez, la vie chrétienne se vit dans la grâce de Dieu. Mes déficiences, qu'est-ce que je fais? Je cours vers le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai quelque chose qui me harcèle, quelque chose qui me fait mal. Il y a une incrédulité. Quoi que ce soit, où on va, au lieu de se centrer sur le bobo, on vient devant le Seigneur, celui qui donne toutes choses, la grâce de Dieu, et puis il me remplit de sa grâce. Et sa grâce brise toute chaîne. Sa grâce brise tout dans notre vie qui a besoin d'être changé. Bien, le Seigneur le fait par sa grâce. Fait que nous sommes des gens de grâce. On a été graciés et il le fera la semaine prochaine. Il est constamment une source. On a besoin de la grâce de Dieu. La grâce est venue par Jésus-Christ. Si vous cherchez ailleurs, vous cherchez dans une mauvaise place. Il y a des gens qui pensent, oh, si je fais ceci, si je prie plus. J'ai entendu un témoignage d'un monsieur, d'un pasteur, il disait qu'il était vraiment animé. Il disait qu'il lisait la Bible, priait 17 heures par jour. Il poussait, il voulait avoir, n'est-ce pas, l'approbation de Dieu. Il voulait avec amertume un peu. Il était à côté. Et il dit, il s'est couché. Et juste quand il s'en allait dormir, il a eu la pensée. Il dit, ben, j'aurais pu faire plus. J'aurais pu faire plus. Si vous avez, et puis des fois on est tous visités par ces « Seigneur, je ne fais pas assez », ben je suis d'accord avec ça, on ne fait pas assez, il a tout fait. Voyez-vous la différence? Fait que le Seigneur ne veut pas, surtout j'ai vécu cela, j'ai grandi un peu cela, et je ne veux pas que les enfants de Dieu vivent sous des lois, des commandements. Je veux la liberté. Puis quand on saisit la grâce de Dieu, ça nous porte à être de vrais adorateurs. Et quand on sait ce que c'est la grâce de Dieu, vous savez-vous, il est facile de pardonner ceux qui nous ont offensés. Seigneur, tu m'as pardonné pleinement, je peux maintenant pardonner les autres. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, c'est l'Esprit de grâce. Et je souhaite, puis le Seigneur souhaite que nos vies soient remplies de sa grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Tout ce que le Seigneur fait, la façon que le Seigneur agit dans notre vie, c'est toujours la faveur de Dieu, la grâce imméritée, sans les œuvres. Et des fois, il y a un dicton ou des gens qui disent, ben, tu mérites la grâce, tu mérites ceci, tu mérites... Non, on ne mérite rien. Et puis même en disant, tu mérites la grâce, c'est une contradiction. La grâce se donne, la grâce se reçoit. On n'est pas digne, on manque, mais la grâce est venue. Le Seigneur nous a aimés même quand on était dans notre péché. Et maintenant que nous sommes enfants de Dieu, à combien plus forte raison serons-nous sauvés de la colère à venir? Fait qu'on va se baigner dans la grâce, on va rester dans la grâce de Dieu, on va espérer, on va recevoir la grâce de Dieu dans notre vie. La Bible dit dans Romains 5 et 20, il dit ceci, pardon, « Là où le péché a abondé, vous connaissez le reste, hein? La grâce qui est le plus fort. » Oh, ben, tu sais, il y a des chrétiens, on est tellement conscients du péché, hein? Dans un sens, c'est bien, mais on est tellement conscients du péché, tu sais, on a une camisole de force, là, puis on est religieux, puis bon, hein? Mais là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Vous dites, c'est une situation incroyable. Regardez le monde. Mais regardez quand Jésus est venu. Regardez les chrétiens dans le premier siècle, l'Empire romain, la persécution, le martyr, toutes sortes de divinités, toutes sortes de philosophies. Là. Oui, mais l'Évangile est venu. L'Évangile a transformé. Les gens, l'Évangile a changé la société. La société a besoin encore d'être changée. Ne regardez pas les politiciens. Regardez pas les églises. Ça va prendre des gens qui connaissent leur Dieu, les gens qui veulent faire des exploits. Et je dis, Seigneur, remplis-nous de ta grâce, remplis-nous de ton Esprit Saint, afin que les vies soient profondément touchées. La religion n'a pas marché. La politique, de plus en plus, vous allez penser que je suis contre les politiciens. Pas nécessairement. Mais mon espérance n'est pas là-dedans. Mon espérance est en Jésus-Christ, puis je sais que votre espérance, là où le péché, même dans votre vie, les choses qui dérangent, les choses que le Seigneur nous sanctifie, le Seigneur nous travaille, mais c'est là la grâce de Dieu a surabondé. Jésus est plus fort que n'importe quoi. Et l'ange dit dans ce passage, quand il est venu, une grâce t'a été faite, il dit, ne crains pas. Et le Seigneur te dit ce matin, ne crains pas. « Oh, ben j'ai pas peur, pasteur. Oui. » Oui, mais êtes-vous pris avec des soucis? C'est le cousin germain de la peur. C'est de la même famille. Ça paraît peut-être moins méchant, mais d'être pris par nos soucis, nos doutes, puis je ne sais pas si le Seigneur est là, je ne sais pas s'il connaît ce que je vis, je ne sais pas si sa main est sur moi, je ne sais pas, enfin... Vis pas là. Vis pas là. Il dit, ne crains point. Combien de fois dans l'Évangile, Jésus dit, même à ses disciples, même à ceux qu'il connaissait, ne craignez pas. Et ce matin, prenez cette parole. Ou dites, prenez-le de Dieu. Dites, non, Seigneur, je refuse. Et Seigneur, je mets ma foi en toi. Vous savez, des fois, un chrétien, là, il faut sortir des crocs. faut flexer nos muscles. Non, Seigneur, j'ai pris, je panique, puis j'ai tout cela. Venez contre cela avec la grâce de Dieu. Venez contre ça avec le nom de Jésus-Christ. Parlez à vos doutes, parlez à les peurs, parlez à des soucis, dites non, pas ici, pas chez nous. Ma foi est en Dieu. Et puis de confesser, de croire, prends un passage biblique, cite-le, réclame-le, cloue-le à la porte. Seigneur, je crois en toi. Et vous allez voir, la Bible dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va faire un travail magnifique en vous. Et vous allez savoir que c'est Dieu, mais pratique-le. Des fois, on sait ces choses-là, mais il faut les saisir. Il faut les accoler, il faut les s'approprier. La foi approprie les promesses à nos vies. Et voilà, le Seigneur dit, le juste vivra de sa foi. Ce n'est pas une foi passive. « Oh, ben, je connais tout cela. J'ai appris ça à l'école du dimanche. J'ai appris ça du pasteur. Je connais ça. » Oui, mais tant que ce n'est pas du vécu, tant que cela ne me change pas, ça reste juste sur les tablettes. On est des gens, vous êtes des personnes que vous désirez, puis ensemble, nous voulons nous encourager les uns les autres de croire, de persévérer, de mettre notre foi dans le Seigneur. Dans le verset 31-33, l'annonce est faite à Marie, et on n'a pas beaucoup de temps, mais l'ange, lui, a parlé de Jésus-Christ. L'ange lui a dit que ce fils-là, que son règne ne finira jamais. Il est le fils du Très-Haut. Et ça, c'est le message central de tout ce que nous croyons, de tout ce que nous faisons. Jésus est le centre de notre message. Ce n'est pas nous, ce n'est pas un autre, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une philosophie. Jésus est le centre. Fait que l'ange, quand il est venu, il n'a pas parlé de lui-même. L'Esprit-Saint ne parle pas de lui-même non plus. L'ange a parlé de Jésus-Christ, de son règne, de ce qui il était. Donc, un peu plus loin dans le chapitre, ça continue, l'ange adresse toujours avec d'autres paroles. J'essaie de me trouver un petit peu. Fait que le message de Jésus, c'est le message central et fondamental. Maintenant, dans 34-35, Marie, elle questionne. Évidemment, imaginez-vous ce que l'ange lui a dit là, qu'elle allait avoir un enfant, qu'elle va avoir donné naissance au Sauveur du monde, Jésus-Christ. Et Jésus, évidemment, on connaît l'histoire, l'Esprit-Saint l'a touché, la parole de Dieu l'a touché, et elle est devenue, n'est-ce pas, l'endroit où Jésus a grandi. Jésus a pris la forme de chair, et Marie a porté Jésus. De la même façon, peut-être pas de la même façon, mais d'une façon très similaire, spirituellement parlant, nous aussi, nous avons reçu Jésus-Christ. La semence de Dieu, Jésus-Christ dans notre vie. Et Galates 4:19 dit ceci, c'est l'apôtre Paul, c'est l'Esprit-Saint qui priait pour l'Église, et cette prière s'applique à nous. Il dit, « Mes enfants, pour qui j'éprouve des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Vous savez, il nous a sauvés, mais le Seigneur demeure en nous par l'Esprit-Saint, sa parole demeure en nous, et nous marchons avec le Seigneur, on mature dans le Seigneur, on grandit dans le Seigneur, on présente le Seigneur pour nous-mêmes, mais on présente le Seigneur aussi pour le monde. Dans le verset 36 et 37, l'ange Gabriel parle aussi de cette femme Élisabeth, qu'elle aussi, elle est devenue enceinte. Fait qu'elle qui était appelée dans 36 et 37, elle aussi était appelée stérile. Et elle avait dans son sein, elle avait Jean-Baptiste. Elle avait déjà 6 mois dedans. Et Marie est devenue enceinte aussi. Et elle était stérile. Et ce qui me frappe dans ce passage, c'est que là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a sa présence, la stérilité s'en va. Il n'y a plus de stérilité. Même dans nos vies, l'Esprit Saint va faire en sorte qu'il y a des fruits de l'Esprit. Il y a la vie de Dieu, ça produit, ça devient une plénitude. Marie est devenue pleinement, physiquement remplie de Jésus. Elle a mis au monde le Sauveur du monde. Et l'ange dit à Élisabeth ou à Marie ici, il dit, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Et ce matin, peut-être c'est une parole pour chacun de nous, c'est certainement une parole, parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Et nous, quand on regarde juste avec la chair, on regarde nos circonstances, on regarde ce qu'on vit, on regarde des impossibilités, mais quand on est dans la présence du Seigneur, le Seigneur présente, de toute façon, le Seigneur a un but, un dessein dans tout ce qui se fait. Oui, dit, mais non, mais je ne vois pas ça. Oui, dans tout ce qui se fait, Dieu est là. Dieu est là pour faire un travail. Dieu est là pour se glorifier. Et quand on est dans sa présence, on voit les choses différemment. Mais si on devient emprisonné dans notre analyse, dans nos raisonnements, dans nos pensées à nous, on reste charnel, on reste humain et on ne voit pas loin. Mais le moment qu'on s'ouvre à Dieu dans nos peines, dans nos misères, dans nos douleurs, dans les choses qui nous tracasse, les choses qu'on ne comprend, on vient devant le Seigneur et on se donne à lui et on se donne avec ce qu'on amène avec nous autres. Et quand on se lève, on ne prend pas le paquet, hein? On laisse cela à l'autel. Et quand on fait ça, le Seigneur ben, transforme notre vie et puis il y a une richesse. Notre espérance, la réponse, c'est Jésus-Christ. Donc, elle dit, rien n'est impossible. Nos yeux ne sont pas sur nous, ni sur les personnes ou les choses à côté de nous. Marie et Élisabeth ont tous les deux mis la confiance en Dieu. Puis j'ai juste noté ce que les hommes, Joseph et Zacharie, le Seigneur fallait, les hommes, hein? Le Seigneur fallait qu'ils les prennent à côté et expliquent plus longtemps. Les hommes ont besoin de se faire expliquer longtemps. Puis quand tu m'expliques longtemps, je comprends plus vite, enfin. Donc, il y a des gens, il ne faut pas pointer les deux. Il faut prier pour nous les hommes. Mais le Seigneur les a fait comprendre. Vous pouvez imaginer Joseph quand même, quand Marie lui annonce. Hein? C'est comique, mais pas comique en même temps. Marie lui dit, ils étaient fiancés. Marie lui dit, Joseph, je suis enceinte. C'est qui le gars? Où est-ce qu'il demeure? Je vais le chercher. Finalement, puis a dit quelque chose là qu'il a complètement dit. Ben c'est par Dieu. Ça vient de Dieu. Ça. Il fallait que l'ange visite Joseph aussi pour lui faire comprendre. Et puis finalement, il a compris. Ben dans le verset 38, on achève avec cela. 38. Marie dit, après avoir cela, après avoir, Seigneur, comment est-ce que ça va se faire? Il dit, bien, c'est par la présence de l'Esprit Saint. Puis, enfant de Dieu, c'est ce qui rend capable, possible, c'est la présence du Seigneur. Elle avait compris, je ne sais pas combien de temps cet entretien a duré, mais Marie, à la fin, verset 38, elle dit, et puis dans ma Bible à moi, puis c'est dans votre Bible aussi, à la fin de ce qu'elle dit, il y a un point d'exclamation. Elle dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » A catché, a compris. Et elle a dit oui. Le Seigneur cherche encore un peuple où le Seigneur se manifeste dans notre vie, ça, pas une promesse, ça peut être pour ceci, ça peut être pour cela. Le Seigneur cherche un peuple. Il dit, je ne comprends pas tout. Et je sais qu'il y a un prix à payer J'imagine toutes les choses dans la tête de Marie, les sacrifices. Elle va être obligée de se renier, de vivre toutes sortes d'opprobes, toutes sortes de choses. Mais après avoir compté, regardé cela, elle a regardé ce que Dieu a dit, a décidé. Le Seigneur veut un peuple qui décide de dire qu'à Marie, je suis ton serviteur, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole. Et on sait qu'elle est bénie entre toutes les femmes. Mais si vous et moi, on persistait et même on augmentait cette façon de voir les choses, de voir le Seigneur, puis ce qui est révélé à nous, sans le douter, sans aller autour, sans essayer d'accommoder ce que Dieu veut, sans de, n'est-ce pas, de baisser ça un peu. Si on disait tout simplement, « Oui, Seigneur, je crois et qu'il me soit fait selon ta volonté. » On va récolter les richesses, la grâce de Dieu et tout ce dont on a besoin. Quelqu'un a dit ceci, « La foi is activated. » Elle a dit oui. Pouvez-vous imaginer le grand Dieu d'éternité qui a un plan éternel et que ça dépend d'une petite fille vierge, pauvre, peut-être avec 14-15 ans, et le ciel, le plan qui affecte toute l'éternité de Adam jusqu'à la fin, ça dépendait d'une femme, une petite fille qui dit oui. Est-ce que vous voyez comment le ciel et la terre marchent ensemble, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Est-ce que vous voyez que dans notre vie, oh oui, ma vie, ça compte pas, je compte pas. Non, non, ne dis pas cela. Si on dit oui au Seigneur, ce oui-là ne finira jamais ici et dans le ciel. Fait que nous sommes un peuple qui dit oui. Nous sommes un peuple ouvert au Seigneur, puis peu importe ce qui vient à nous, c'est pour notre bien, c'est pour le bien des autres. On est un peuple, on est prêt à dire oui au Seigneur. Des fois, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours, oui, mais il y a une lutte, et puis, tu sais, Marie, je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais l'essentiel, c'est qu'elle a dit oui. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et la Bible dit, les justes, nous sommes les justes, nous avons été justifiés. Le juste vivra par sa foi. Et même cette foi, c'est une grâce de Dieu. Nous voulons l'utiliser, hein? Nous voulons le mettre en pratique. C'est ce que vous faites. Mais nous voulons nous encourager les uns les autres pour faire davantage. Non pas pour être approuvés de Dieu, nous sommes déjà pleinement approuvés. Nous sommes déjà pleinement acceptés dans le bien-aimé. Nous avons maintenant la vie éternelle, la Bible nous le dit. Mais c'est à cause de notre amour, c'est à cause de ce qu'il révèle à nous, c'est à cause de cet amour qu'on a pour Jésus-Christ. Et la grâce de Dieu, nous voulons vivre pour le Seigneur, nous voulons racheter le temps. Nous voulons nous offrir constamment devant le Seigneur. Seigneur, prends ma vie, ma petite vie, Seigneur. Je ne peux rien faire de moi-même. Mais Seigneur, me voici. Et le Seigneur accepte. Il est temps. Je vous invite de vous lever, s'il vous plaît.